Grand angle.
Grand angle sur Radio Orient. Des centaines de Tunisiens ont manifesté le 20 août à Tunis contre le président Kais Saied. Ils ont dénoncé les coupures d'électricité et les pénuries d'eau potable. La contestation n'est pas nouvelle. Le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques a fait état de centaines de manifestations à travers le pays ces dernières semaines. Des rassemblements principalement contre les pénuries d'eau potable et les coupures d'électricité, mais aussi contre la répression politique du pouvoir. Pour en parler, notre invité est Pierre Vermeiren, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des pays du Maghreb. Bonjour.
Bonjour.
Alors la Tunisie fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Est-ce que vous avez suivi les contestations à Tunis et relèvent-elles d'une vraie fatigue populaire face aux difficultés de la vie quotidienne selon vous ?
Oui, clairement. On a, si vous voulez, d'abord une situation météorologique très dure, très pénible. Depuis plusieurs mois, il fait très très chaud. Ce mercredi, par exemple, vous avez encore 45 degrés à Tunis et presque dans l'ensemble du pays, un peu plus au sud même. Et dans ce contexte-là, vous avez à la fois, de manière alternative, depuis juillet, des pénuries ou des coupures d'eau et d'électricité. Électricité, ça veut dire la clim, et l'eau, c'est à la fois au robinet une eau un peu saumâtre, ou bien des pénuries de bouteilles d'eau. C'est-à-dire que ce sont des biens, si vous voulez, vitaux, fondamentaux, qui viennent à manquer. Les services vitaux comme l'électricité, et donc évidemment, je crois que dans n'importe quel pays au monde, dans ces conditions-là, il y aurait des manifestations.
Et le pays a vécu une succession de crises avec une instabilité politique forte les dernières années. Est-ce que cette situation est particulièrement nouvelle ?
C'est vrai qu'il y a une crise structurelle en Tunisie, qui est à la fois politique, financière et économique. Même s'il y a une stabilité institutionnelle depuis 2021 avec la prise du pouvoir autoritaire par le président Saïd, et puis les élections qui ont eu lieu depuis, les réformes constitutionnelles, mais ça ne règle pas fondamentalement la question économique, ni je dirais une certaine ambiance, notamment l'ambiance qu'instille le président de la République contre ceux qui seraient des accapareurs ou des comploteurs contre la sûreté ou la stabilité de la Tunisie. Par exemple, les pénuries d'eau actuelles ont donné lieu à des attaques contre ceux qui spéculeraient sur les bouteilles d'eau ou les stocks d'eau disponibles. Mais ça, c'est l'ambiance politique. Après, vous avez un facteur, je dirais, conjoncturel particulier, comme je le disais, qui est cette très très grosse vague de chaleur qu'on a connue aussi en Europe cet été, et qui a une conséquence technique directe. Bon, ça souligne quand même que la STEG, la grande compagnie d'électricité, n'est pas au mieux de sa forme. Mais en tout cas, c'est la très grosse chaleur, apparemment, gêne les transformateurs, voire les blocs. Cela entraîne des pénuries d'électricité, des coupures hein, pour délester le réseau pour qu'il n'explose pas. Et du coup, ça entraîne, par voie de conséquence, un blocage des stations de pompage d'eau. Avec des conséquences en chaîne, évidemment, puisque ça se répercute dans les entreprises, ça se répercute dans toute la chaîne logistique et aussi chez les particuliers, y compris chez ceux qui mettent en bouteille, si vous voulez, l'eau minérale. Et donc, cette chaîne de conséquences, finalement, s'auto-alimente et aboutit à la situation actuelle. Il y a même eu, en juillet, une nuit entière, pratiquement, dans laquelle la Tunisie a été plongée dans le noir avec une grosse coupure d'électricité en pleine Coupe du Monde de foot. Ça a beaucoup fait parler. C'est lié aussi au fait qu'il y a une interconnexion du réseau électrique tunisien avec l'Algérie et avec la Libye, qui elles-mêmes subissent des coupures. Parce que cette très grosse chaleur, encore une fois, pousse les Tunisiens à pousser, et leurs voisins d'ailleurs, à pousser les clims. Et la climatisation, évidemment, est très consommatrice. On consomme pratiquement plus d'électricité qu'en hiver. Et le réseau est à la limite de ses capacités. La conséquence la plus tragique et dramatique, au-delà de l'électricité, bien sûr, c'est l'eau. La pénurie de bouteilles d'eau. Les Tunisiens en consomment énormément chaque année, presque une centaine de bouteilles par par habitant en moyenne. Et cette eau, si vous voulez, quand elle vient à manquer et qu'il fait extrêmement chaud et que l'eau manque aussi au robinet parce que justement il y a des coupures liées au pompage, vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça se rajoute dans une ambiance plutôt morose, plutôt maussade au point de vue politique, au point de vue économique. Et donc oui, il y a à la fois des aspects structurels et conjoncturels qui se mélangent.
Suite aux contestations qui ont eu lieu à Tunis la semaine dernière, certaines figures de l'opposition ont réagi, comme Ezzedine Hazghi, qui affirme qu'il n'y a plus d'État, plus d'institutions en Tunisie, juste un homme qui ignore tout et qui dirige le pays, une référence au président Kais Saïd. Est-ce que l'opposition s'est structurée les dernières années face au glissement autoritaire du président Kais Saïd ?
Bah, écoutez, de mémoire, en juillet, au moment de l'anniversaire du coup d'État de 2021, il y a eu quelques milliers de personnes qui ont manifesté, notamment à Tunis, à l'appel des mouvements d'opposition. Mais il faut quand même rappeler que les mouvements d'opposition ont pratiquement tous leur chef en prison. Ça concerne évidemment les islamistes, mais pas seulement. Ça concerne aussi le parti nationaliste, ça concerne des partis ou des syndicalistes de gauche. Qu'il y a aussi des journalistes ou des intellectuels qui ont eu des problèmes, que la presse et les médias sont contrôlés, que les institutions, suite à la dernière constitution, sont entièrement, effectivement, aux mains ou aux ordres de la présidence de la République. Donc on est dans une situation très particulière. Pour un pays qui avait été habitué à vivre dans une situation certes difficile, mais néanmoins démocratique au cours de la dernière décennie, c'est évidemment une forme de retour en arrière assez compliquée à gérer. Et évidemment, si les choses du point de vue économique allaient beaucoup mieux, ça serait plus simple. Mais là, on a un cumul des crises qui fait que la situation, pour l'instant, n'est pas instable, mais en tout cas, elle provoque beaucoup de mécontentement. Et ce mécontentement ne peut pas vraiment se cristalliser, justement, à travers des voies politiques, syndicales ou intellectuelles, parce que, justement, il y a beaucoup de répression, il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Ce ne sont pas forcément des emprisonnements très nombreux, mais en tout cas très ciblés sur des personnalités qui, justement, pourraient organiser une éventuelle opposition politique.
Le coup de force dont vous parliez, c'est celui du président Kais Saïd du 25 juillet 2021, par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs. Depuis, les ONG locales et internationales déplorent un recul alarmant des droits et des libertés en Tunisie. Comment comprendre le glissement autoritaire quand on sait que la Tunisie a été le phare des espoirs démocratiques au début du printemps arabe en 2011 ?
Ça avait donné l'étincelle, si vous voulez, à une époque où il y avait justement une espérance. Il y avait l'espérance d'un changement. D'abord, il y avait un immense ras-le-bol vis-à-vis de la présidence Ben Ali, évidemment, et de ses comportements, notamment de type mafieux. Et puis, il y avait une ambiance, il y avait une espérance, parce que au fond, la Tunisie vivait dans un régime autoritaire depuis des décennies, et elle avait envie d'essayer autre chose. Cette autre chose, elle l'a essayé. Ça a été une phase de transition démocratique qui a duré une dizaine d'années, qui a apporté à la fois beaucoup de liberté, beaucoup de débats, beaucoup d'espoir, mais qui a aussi entraîné beaucoup de déceptions. Il faut rappeler que le coup d'État ou le coup de force, si vous voulez, du président Saïd a été soutenu par la grande majorité de la population, parce que les équipes dirigeantes au pouvoir, notamment d'El Nahda, avaient été accusées de mettre le pays à plat du point de vue financier, pas seulement évidemment. Mais au fond, depuis, les choses n'ont pas changé. Et ce qui a changé, c'est que malgré les mécontentements d'aujourd'hui, qui sont probablement encore plus forts que dans les années 2010, ou dans les années 2000, pardon, ou vers 2010-2011, bien, il n'y a plus d'espoir ou il n'y a plus d'espérance. Et c'est là, évidemment, qu'il y a un vrai problème, parce que à la fois, cette capacité d'organisation de l'opposition, eh bien, elle n'est pas là, mais les Tunisiens eux-mêmes sont très désespérés ou sont très inquiets. Et le président lui-même, d'ailleurs, les pousse dans certains comportements. On parle de son populisme, c'est quelque chose qui est très particulier, assez nouveau.
Et la Tunisie semble de plus en plus isolée sur la scène internationale. À titre d'exemple, l'ex-chef d'État exilé en France, condamné en 2024 par contumace en Tunisie à plusieurs années de prison, a vivement critiqué Kais Saïd dans une interview sur la chaîne France 24. Et suite à cette interview, il y a eu la convocation le vendredi 24 juillet de l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ça illustre la crispation d'un régime tétanisé face aux critiques internationales ? Est-ce qu'on peut dire que la Tunisie est de plus en plus isolée ?
Oui, c'est incontestable, si vous voulez, parce que faut se rappeler qu'il y a 5 ans, le président Saïed est arrivé au pouvoir pour libérer la Tunisie de sa contrainte financière extrême et reprendre langue avec les institutions financières internationales, avec les Européens, avec les pays arabes, les Américains, etc. Or, il n'en est rien. Bien sûr, il y a certains pays comme l'Algérie, comme les Émirats, voire aussi comme l'Amérique, qui soutiennent la Tunisie. Mais en tout cas, avec les créanciers, ça ne marche pas. Et du coup, le pays vit dans une situation financière très très compliquée. Il est lié évidemment à ses voisins qui eux-mêmes sont dans des situations compliquées, je dirais pas du point de vue économique, mais du point de vue géopolitique, hein, que ce soit l'Algérie d'un côté ou que ce soit la Libye de l'autre. Le monde arabe évidemment n'est pas au mieux. Et les Européens, qui ont beaucoup aidé la Tunisie pendant la phase démocratique, hésitent à le faire, d'autant plus que le président Saïed ne les ménage pas dans aucun de ses discours. Donc, effectivement, il y a une forme d'isolement. La Tunisie était alliée au Maroc, elle s'est fâchée avec le Maroc. Et donc, oui, il y a un certain isolement, il y a une certaine incompréhension. Les Européens ne critiquent pas, ne critiquent peu. Observent la situation, mais sont quand même pas vraiment. Alors, bien sûr, l'économie a repris, le tourisme a repris, il y a des investissements, heureusement, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de clarté, si vous voulez. Il y a une incertitude aussi sur la santé du président. Les dernières élections l'ont reconduit, certes, mais au fond, le pays peine à digérer ces profondes années de transformation politique qu'il a vécues, et sans grand succès d'ailleurs, malheureusement.
Merci à vous, Pierre Vermeeren, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et spécialiste des pays du Maghreb.
Merci beaucoup à vous.
Et merci d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Orient ou sur Spotify.
C'était Grand Angle.